lire et l'écouter à tout moment sur notre site internet rfi.fr. Radio Foot International est à suivre sur la radio mondiale.
Vous êtes chanteuse, chanteur, seul ou en groupe, Radio G vous propose de vous donner de la visibilité en participant à la 7e édition de Radiovision, le concours de chansons de Radio G. Il vous suffit de proposer une chanson originale, texte et musique, et de remplir le formulaire sur radiovision.fr. Si vous êtes sélectionné, vous participerez au concours et vous serez soumis au vote du public en étant diffusé sur le site et l'antenne des radios partenaires. Inscription libre et gratuite avant le 19 avril 2026 sur radiovision.fr.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir, bonsoir. J'ai plus d'inspiration au bout de 5 saisons pour entamer les intros d'émission, mais je vois que Mathéo est en train de galérer. Est-ce que tu nous entends bien, Mathéo? C'est bon?
Oui, bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous, je vous entends super bien, tout est parfait.
Bonsoir Mathéo, Mathéo en duplex de l'inauguration de la cathédrale. Non, tu y étais la semaine dernière
C'est ça exactement, ouais, j'y étais, du coup c'était jeudi dernier effectivement. C'était très sympa, ça a duré 2 heures à peu près, puis on a pu voir des discours politiques, observer aussi forcément la bénédiction de l'église, et puis aussi tout un spectacle qui avait été organisé par le quai, et ça c'était vraiment génial pour le coup.
À la limite, ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir ce que toi tu en penses. Parce que c'est beaucoup sujet à controverse, le
de
portail.
La galerie, tu parles?
Oui, pas de l'événement.
Alors j'ai rencontré sur place une dame qui m'a dit qu'elle l'aimait beaucoup quand elle était sur les marches. Et je suis plutôt d'accord avec ça. C'est-à-dire que d'en bas, effectivement, c'est assez joli, c'est assez esthétique. Et puis quand on arrive devant, effectivement, ça fait un grand bloc. Donc après, à voir si on va s'habituer à cette nouvelle galerie. Mais moi, je suis mitigé.
T'es mitigé.
Ni bon ni mauvais.
Bon, en tout cas, tu seras moins mitigé tout à l'heure avec Johan qui va nous rejoindre en cours de route pour 1 et demi.
C'est ça.
Rapidement, on parle de quoi?
On va parler donc du film Le Dernier pour la Route de Francesco Sosai. Francesco Sosai, c'est peut-être un nom qui vous parle puisqu'on l'avait interviewé à Premier Plan en janvier donc. Et ça va nous permettre de revenir plus en profondeur sur ce film qui est sorti il y a tout juste une semaine au cinéma.
Et hâte d'en apprendre davantage, de découvrir tout ça tout à l'heure en fin d'émission. En fin d'émission aussi, nous aurons, alors là on va être dans l'art aussi, un autre type d'art avec Banksy, Marie.
Oui, c'est ça.
L'exposition, t'as été faire un petit tour toi du côté de l'exposition, même jour que la cathédrale, mais toi t'étais pas à la cathédrale, t'étais
à
Banksy.
J'étais à la collégiale Saint-Martin, à l'exposition Banksy pour l'inauguration, et puis j'ai interviewé des gens, donc on va tout vous dire dans la chronique qui arrive.
Ah, tu vois, j'avais pas trop d'inspiration pour cette introduction, du coup vous m'aidez beaucoup parce que Mathéo a envie de rajouter quelque chose sur Banksy.
Oui, du coup j'ai pu visiter en même temps l'expo et c'était vraiment très très cool, c'était un bon moment, et puis c'est une exposition qui est assez dense et gratuite, donc je spoil un peu. Mais je conseille à tous nos auditeurs d'aller voir avant même la chronique.
Voilà, comme ça vous faites tous un peu dans le même secteur, donc vous visitez le centre-ville d'Angers. Et puis dans le centre-ville d'Angers, pas très loin de la cathédrale justement, je crois, si mes souvenirs sont bons, on a Pop It avec Antoine Champion qui était venu nous présenter Pop It juste avant son ouverture. Depuis c'est ouvert, et puis il va nous parler ce soir, il va nous dire comment ça se passe déjà, mais aussi et surtout nous parler du 18 avril. Beaucoup de choses, parce que je crois que la semaine dernière on a déjà parlé du 18 avril avec la journée internationale des disquaires indépendants, ça tombe bien, il en est un d'entre eux, et voilà, Antoine, fan de K-pop, qui nous fera la pause musicale tout à l'heure et qui sera aussi notre invité pour cette émission qui commence.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît. L'invité de Topette sur Radio G.
Puisque notre invité en vend, ça fait partie des choses qu'il vend dans son magasin Pop It, Antoine. Bonsoir Antoine.
Bonsoir tout le monde.
Antoine Champion, de retour sur Topette, 101.5 FM, puisque tu étais venu nous présenter l'ouverture en avant-première de Pop It. C'était, j'arrive pas, j'ai un an et demi, 2 ans maintenant.
Un an et demi déjà, oui. en octobre 2024.
De l'eau a coulé sous les ponts depuis, bah, oui, ça fera 2 ans donc, cette année. On imagine que ça se passe bien pour toi, tu vas nous raconter ça dans quelques instants. Tu vas aussi nous parler du sujet central, de l'actualité chaude te concernant, le 18 avril, le Disquaire Day auquel tu participes. Alors c'est un événement international, toi tu y participes avec des copains-copines aussi du secteur angevin. Tu citais notamment Homme Wax et CDBD. Mais avant d'évoquer cet événement, on va rappeler un petit peu ce qu'est Pop-It pour bien te redécouvrir si on n'était pas là en octobre 2024. Et puis découvrir aussi ton univers, ce que tu aimes, ce que tu proposes dans ce magasin, car c'est un concept store, on peut le dire comme ça.
Totalement.
On ne fait pas que acheter un CD, c'est un peu plus que ça. Ou un CD ou un vinyle d'ailleurs.
CD ou vinyle, exactement, ou produits dérivés, parce que j'ai tout ça dans le magasin. Donc je me dis concept store sur la musique actuelle et internationale, parce que je suis un peu plus qu'un disquaire, j'ai pas que des vinyles justement, donc CD, cassettes, et j'ai des petits produits dérivés sur la musique, des tasses AC/DC, des chaussettes Pink Floyd, des petits trucs comme ça, petits goodies en plus. Et du coup, comme tu disais, ça fait un an et demi que j'ai ouvert, et ça se passe plutôt bien, je trouve, mon public, qui est assez varié, parce que dans le magasin, je propose plein de styles différents, donc c'est vrai que je touche un peu tout le monde.
Alors, des produits dérivés, parce que on est un peu sur des personnes qui sont fans absolus, des groupies d'une certaine façon, des artistes qui sont en vente au travers de leur musique, et c'est une expérience étendue, comme on dit.
Je dirais oui et non. Déjà, la musique, aujourd'hui, on l'écoute quand même beaucoup sur plateforme, donc il y a plein de gens qui n'achètent plus de CD ou qui n'achètent pas de vinyle, et du coup, finalement, une façon de montrer ce qu'on écoute ou ce qu'on aime, c'est acheter finalement des petits objets qui vont avec. Après, c'est aussi des idées cadeaux ou autres. Et après, il y a en effet tout vraiment les fanbase, les stans, comme certains les appellent, qui, eux, par contre, vont aller acheter tous les produits dérivés et tous les petits trucs qu'ils aiment sur leur artiste.
C'est intéressant ce que tu dis, Antoine, sur les plateformes de streaming, parce que ça signifie que le fait même aujourd'hui d'acheter un CD ou un vinyle est déjà un acte, un pas supplémentaire. C'est approuver l'artiste.
Totalement. J'ai une cliente hier qui me disait, de toute façon, moi j'achète les vinyles, c'est plus pour la collection, c'est plus pour les avoir que vraiment les écouter, même si elle a une platine. Quelques clients qui n'ont pas de platine, mais elle a une platine, mais elle dit c'est quand même le fait d'avoir l'objet, et c'est pour ça que je pense que le vinyle est vraiment revenu à la mode. Et a fait plus 15% l'année dernière par rapport au CD, parce que c'est vraiment un objet qu'on a envie de montrer, qu'on peut regarder, et qui est assez grand, qui a une certaine, je peux dire prestance, mais qui montre en tout cas ce que c'est.
Tu parlais de certains artistes que tu prenais en exemple pour parler des produits dérivés. Est-ce qu'il y a des groupes, des formations musicales, des artistes phares, stars dans ton magasin, ou alors qui sont plébiscités par les personnes qui viennent?
Alors moi, je suis vraiment très éclectique, j'ai un peu de tout, mais en gros, ce que les personnes cherchent le plus chez moi, il y a beaucoup de K-pop, parce que je suis une boutique qui fait de la K-pop, pas que, je fais aussi de la J-pop et plein d'autres choses.
Alors peut-être, mais juste avant que tu ailles plus loin, préciser K-pop, ouais. J-pop,
K-pop pour Corée, donc Corée du Sud, la musique coréenne du coup, et la J-pop c'est la musique japonaise. Et donc, moi à la base j'écoutais plus de la musique japonaise, mais ces derniers temps c'est vraiment la K-pop qui est vraiment venue sur le devant de la scène, et je crois qu'on va écouter un extrait tout à l'heure d'un groupe que j'aime bien, d'un
girl Bang Bang.
Exactement, de Hive. Et après, donc dans la K-pop, c'est surtout Stray Kids, un peu Hive, mais plutôt Blackpink ou BTS en ce moment. La BTS qui a sorti un album récemment qui fait vraiment parler. Où là, du coup, ça marche bien dans le magasin. Et là, il y a des petits produits dérivés, en effet. J'ai des porte-clés Blackpink, j'ai des petites peluches Stray Kids. Et après, sinon, si on part sur l'américain, c'est Billie Eilish, notamment, ou là, genre des chaussettes, des t-shirts. Taylor Swift aussi. Là, j'ai pas trop de goodies parce que Taylor Swift, elle protège très bien ses droits, et tant mieux. Et elle a pas de fournisseur autre que son store à elle. Donc, c'est un peu plus compliqué d'avoir des produits dérivés, mais il y a des vinyles, CD et autres. Et après, en français, en ce moment, c'est Mickey et Sam Sauvage, quand même, qui font pas mal parler.
Sam Sauvage qui sera du côté d'Angers en octobre, je crois, pour fêter les 2 ans de Pop-It,
c'est au Shabada, c'est pas chez moi, mais bon, si jamais il passe, avec plaisir. J'arrête pas d'envoyer des messages aux artistes pour qu'ils passent dans le magasin. Pour l'instant, ils sont en tournée, ils ont quand même pas toujours le temps. Donc.
Ce qui est intéressant quand même avec ce concept Pop-It, du coup, tu parles de vinyle, on va dire que c'est l'entrée de base, l'objet qu'on s'attend à avoir au-delà du CD pour avoir un objet physique de sa musique. Mais ça reste des choses qui finalement sont très récentes. Tout ce que tu as cité, c'est il y a quelques années encore, quand on pensait vinyle, on pensait, tu l'as cité aussi, à CDC, Beatles, éventuellement Michael Jackson. Mais pas totalement. Du tout. Les artistes, là, on est sur des musiques actuelles qui sont streamées.
Tout le monde s'y remet au vinyle. Toutes les sorties sortent en vinyle. Elles sortent même en cassette. Les cassettes reviennent aussi un petit peu. J'y crois un peu moins. Mais en tout cas, tout ressort en vinyle. Et c'est ça qui fait ma particularité par rapport aux autres disquaires, au moins que sous CDBD ou même Exit Music, c'est que je suis vraiment moi sur de la nouveauté plutôt.
Et donc ça c'est la particularité de Pop Hit, d'où ouais. Le Pop Hit, et c'est actuel.
C'est ça.
Je me tourne vers Mathéo parce que je suis très curieux de savoir ce que lui en pense, en tout cas comment il accueille ce concept sort qu'il ne connaissait pas. Je crois pas que tu connaissais Pop Hit, Mathéo.
Absolument pas, j'étais pas là du coup dans l'émission d'octobre 2024 que tu as cité tout à l'heure, mais non, moi je trouve que c'est une très bonne chose en fait. C'est toujours bien d'avoir des magasins qui ont un rapport très serré comme ça avec la culture, notamment effectivement le fait d'avoir des vinyles, parce que les vinyles ça a plusieurs qualités qui sont autres que juste le physique en tant que tel et l'esthétique. Je pense à l'écoute, forcément on est beaucoup plus à l'écoute quand on a un vinyle, tout simplement parce qu'on peut pas passer la musique comme ça, on peut pas se dire je vais commencer la musique à la moitié du son, enfin il y a tout un aspect de l'écoute qui est hyper intéressant. Et du coup moi ça me permet de rebondir sur quelque chose, une question que du coup je voulais te poser. En fait je me questionnais quand même, parce que tu as cité des artistes et des groupes qui sont quand même très affiliés à des groupes de personnes en tant que telles, c'est-à-dire que c'est une musique très fédératrice, on a beaucoup de fans, on va dire. Donc est-ce que tu vois tout le temps les mêmes personnes revenir, ou est-ce que des fois t'as justement des gens curieux qui sont pas issus de ces sphères de fans d'artistes qui viennent dans ton magasin pour essayer soit de découvrir, soit d'essayer de trouver aussi une trouvaille qui leur tienne à cœur?
J'ai vraiment les deux, et j'ai des clients très réguliers qui reviennent, je peux dire si toutes les semaines, il y en a qui viennent toutes les semaines, surtout sur la K-pop en plus, où les gens veulent vraiment voir, vu qu'il y a beaucoup de ruptures de stock dans les magasins, et ben ils aiment bien venir voir s'il n'y a pas un nouveau groupe ou un nouveau truc qui vient de sortir. Après tout ce qui va être Billie Eilish, Taylor Swift, là les fans ils sont aussi très au courant de ce qui va sortir, et on va parler tout à l'heure du Disquaire Day, mais il y a une sortie Taylor Swift au Disquaire Day, on l'a beaucoup demandé. Donc ça c'est des clients quand même qui viennent régulièrement et qui savent un peu ce qu'ils cherchent ou ce qu'ils veulent. Et après l'avantage de Pop Hit, avoir tous ces petits goodies, ces petits produits dérivés en plus, j'ai quand même pas mal de curieux et de gens qui sont pas forcément des gros collectionneurs ou qui connaissent pas forcément même le magasin. J'ai l'avantage d'être la rue des Lys, c'est la rue qui va vers la gare, donc j'ai plein de touristes et de gens qui passent à par hasard qui passent. Donc finalement j'ai un peu des deux justement, vraiment des gens qui viennent très régulièrement et d'autres qui viennent vraiment ponctuellement juste parce qu'ils aiment bien le style du magasin, ce qu'il y a dedans.
Alors, est-ce que ce titre est représentatif de l'univers que tu proposes, de la démarche de Pop Hit, peut-être? Hive, Bang Bang, c'est ce qu'on écoute maintenant sur le 101.5 FM. Et puis, on reparle de toi, Antoine, de Pop Hit aussi. Je laisserai Marie nous faire part de ses impressions. Et puis, on va parler bien évidemment du Disquaire Day, mais avant tout ça, donc, Bang Bang de Hive.
Problem, yeah, I'm catchy. 벽에 붙은 나의 picture. I don't want it. Wake up. 주저하지 말고. 다른 시선 준 멀리. I don't give a shit what you say. Yeah, I'll be going out with the bang, 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 bang,
Bang Bang de Hive sur le 101.5 FM. Vous êtes à l'écoute de Topette. On débattait, on dissertait, on apprenait, on commentait sur la K-pop, la J-pop aussi, la... Pas latino-pop, hein, Antoine, mais de la K-pop faite made in Amérique du Sud aussi, ça existe.
Ça existe. Il y a un groupe qui s'appelle, alors si je ne me trompe pas, c'est Dos Santos, qui est justement un groupe, entre guillemets, de K-pop, mais qui chante en espagnol et qui vient d'Amérique du Sud. Alors, je ne sais plus exactement si c'est Brésil ou Colombie, mais c'est dans ce coin-là. Après, y a, la musique latine, elle est quand même très, très connue aussi. Il y a Bad Bunny en ce moment qui fait beaucoup parler, mais ça marche très bien en Amérique latine. Et du coup, bah, HYBE, qui est une grosse industrie, enfin une grosse entreprise de K-pop, a commencé à créer des groupes aux États-Unis, notamment qui s'appelle Katsai. Dos Santos, c'est eux aussi en Amérique latine, et ils disent qu'ils veulent faire des groupes comme ça un peu partout, du même style que de la K-pop. Ça reste vraiment de la K-pop, mais d'origine pas coréenne justement. Donc c'est un petit changement en ce moment qui est en train d'arriver. On verra. En France, on a un groupe qui s'appelle Starseeds, qui fait aussi un peu de la K-pop, mais il n'y a pas une maison de K-pop derrière. Mais ça reste quand même dans ce style-là.
Il en connaît un rayon sur la K-pop, Antoine. Hein. Ça tombe bien, un rayon de K-pop, c'est ce qu'il a dans son magasin Pop It, justement. Alors, il n'y a pas que ça, hein, que ça. À la fois, si on est très hypé par la K-pop, j'imagine qu'on va trouver satisfaction chez Pop It, mais pas forcément. On l'a dit tout à l'heure, il y a Billie Eilish, musique pop actuel.
Voilà, exactement. Et j'ai quand même un peu de métal, de rap, etc. Mais c'est vrai que c'est là où je suis le meilleur, entre guillemets, c'est sur la pop et international, donc ça peut être d'un peu partout. Et en fait, il y a eu un événement la semaine dernière qui s'appelle le Geekfest, où justement, bah, j'ai pu voir pas mal de mes clients qui sont plus justement sur cet univers K-pop, japonais, etc. Et finalement, le week-end qui va arriver, ça va peut-être faire le lien avec le Disque RD, là je vais voir mes autres clients qui sont plus fans de vinyle et qui sont moins justement sur ce rayon-là de la K-pop et de la J-pop.
Il y en a pour tous les goûts, décidément. Mmh. Avant de parler du Disque RD du 18 avril, Marie, je me tourne vers toi, ce concept store d'acheter physiquement la musique, alors que ce soit le produit qui permet potentiellement, même si ça peut être pour la collection, d'en écouter, ou même des produits dérivés. Ton regard, ton impression, ton avis, est-ce que toi-même tu es t'as une collection de CD ou de vinyle?
Alors moi je suis de la génération CD et cassette, c'est-à-dire que j'ai connu quand on est jeune à rembobiner les bandes de cassette avec les stylos. Et mes parents sont de la génération de vinyle, donc j'ai hérité de leur collection de vinyle. Donc chez moi, j'ai des vinyles, des CD et des cassettes. Alors le son est scandaleux concernant les cassettes, donc je ne sais pas si ça fait d'ailleurs partie de mes questions. Si sur les nouvelles cassettes, est-ce qu'ils ont amélioré la bande son et la qualité du son? Parce que moi, j'ai réécouté de vieilles cassettes.
Oui.
Et c'est assez drôle d'entendre la qualité du son qui est très mauvaise en fait. Ce qui est dommage parce que c'est un objet qui est assez sympa à avoir chez soi.
Alors pour moi la technologie de la cassette elle a pas du tout changé. Donc il y a peut-être le son qui est un petit peu amélioré avec les enregistrements qui sont faits maintenant et qui sont posés sur les bandes, mais ça reste la qualité la moins bonne entre le vinyle, le CD.
D'accord, donc il faudra toujours rembobiner la bande peut-être avec des stylos.
Bah toujours, okay. Surtout que c'est dur de retrouver des baladeurs cassettes aujourd'hui. Il y a Sony qui s'est remis un peu dessus. Moi j'en vois aussi d'une marque parisienne qui joue un peu sur le côté rétro. Donc à moins qu'eux, ils aient justement les boutons pour pouvoir revenir en arrière, mais sinon on va continuer à faire... Parce que la technologie n'a pas changé, hein. Les cassettes sont toujours les mêmes.
Oui, ou alors il faut encore avoir l'enceinte, la chaîne IFI qui faisait radio, CD,
oui,
avec les deux enceintes.
Ouais,
exactement, ouais. C'est pour ceux qu'on a encore, c'est pareil, c'est dur à retrouver aujourd'hui, ou en occasion.
J'en ai une, moi aussi, j'ai une radio avec...
Bah voilà, gardez-les si vous en avez chez vous, du coup ça pourra peut-être servir si la cassette revient à la mode. Le 18 avril, on en parle maintenant, Antoine, Disque RD, alors événement international auquel toi tu participes avec d'autres disquaires sur Angers. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être présenter quand même l'événement à l'échelle internationale.
Le Disque RD, du coup, c'est une journée qui a été créée pour les disquaires indépendants, pour faire vraiment venir les gens chez les disquaires indépendants. C'est international, comme tu le disais. Donc, c'est partout dans le monde, la même date, le 18 avril. À cette date-là, ce qui change un peu d'habitude, c'est qu'il y a des sorties spécifiques ce jour-là. D'habitude, les sorties musique, c'est plutôt le vendredi. Mais là, on va avoir beaucoup de sorties. Enfin, il y a plus de 300 références, je crois, sur le Disque RD. C'est pas forcément des nouveautés en tant que telles. C'était des choses qui sont déjà sorties, mais ça va être des éditions très limitées. coloré, ou alors un single, genre Taylor Swift sort Elizabeth Taylor, son nouveau single en 45 tours, en version limitée pour le Disquaire Day. Va y avoir d'autres comme Bring Me The Horizon, une version lo-fi justement de Bring Me The Horizon, si je me trompe pas, qui est vraiment originale, qui sera fait que pour le Disquaire Day. Donc c'est des sorties spécifiques ce jour-là, et ce qui différencie d'habitude, c'est qu'on n'a pas le droit de réserver pour les gens. L'idée, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Et du coup, il faut que les gens viennent dès le matin. Moi, l'année dernière, il y avait eu de la queue devant la boutique. Je pense que cette année, il y en aura encore plus. On est trois disquaires sur Angers à y participer. Donc Popit, bien sûr, moi. CDBD et Homewax. Moi, je vais plutôt être sur les titres de la pop. Pas que, j'ai quand même pris du Johnny Hallyday, du Pink Floyd, etc. Mais j'en ai pris en moins grosse quantité que Taylor Swift, où là, j'en ai pris beaucoup.
Tu m'en garderas, s'il te plaît.
Alors, j'ai pas le droit. Faudra venir samedi, ou alors s'il m'en reste mardi, mais c'est pas sûr sur Taylor Swift. Et après, c'est des BD au moins qu'ils font aussi, qui vont être eux un peu plus sur le rock ou autre, même s'ils ont commandé quand même certains titres pop, notamment. Et après, il y a un autre disquaire, Exit Music, qui participe pas au Disquaire Day en tant que tel, mais elle va faire des promos ce jour-là pour quand même participer à l'événement. Et moi, j'ai ma voisine d'en face, le Oshimoshi, le Bubble Tea, qui va faire 10% aussi sur ses Bubble Tea pour tous ceux qui passent en magasin.
Qui est pas disquaire.
Si. Qui est pas disquaire.
Qui est pas disquaire du tout.
Non. Mais histoire de, on va dire d'événementialiser cet événement, parce que du coup, à Paris ou dans d'autres villes, il y a des concerts, il y a des trucs qui sont vraiment prévus pour ce jour-là. Nous, à Angers, on est trois à participer avec les vinyles qui vont sortir ce jour-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément créé d'événement particulier. Peut-être que ça viendra avec le temps. Surtout quand on voit ceux qui aiment les vinyles, qui suivent vraiment les sorties et qui viennent dans nos magasins. Ils sont quand même assez nombreux. C'est vraiment revenu à la mode. CDBD m'avait dit que le Disquaire Day s'était un peu calmé quand le vinyle fonctionnait moins. Alors que là, depuis 3-4 ans, c'est vraiment revenu sur le devant de la scène.
La hype du vinyle, est-ce que ça te fait réagir, Samarie? Je vois que tu avais préparé éventuellement des petites questions, peut-être en lien avec cet événement.
Oui, moi j'avais travaillé sur le Disquaire Day, ça a été initié aux États-Unis, ça s'appelait le Record Store Day en 2007. Et en fait, à la base, le but était de soutenir les disquaires indépendants face à la dématérialisation. Là, on voit qu'effectivement, il y a un regain, ce que tu as expliqué, d'achat de vinyle. Mmh. Comment tu expliques, en fait, parce que c'est un objet qui a fait partie de mon enfance, donc ça fait un peu l'effet Madeleine de Proust d'en racheter. Comment tu expliques que, face à toutes les plateformes et à la dématérialisation, les jeunes, on en a deux là sur le plateau, trouvent un intérêt à acheter en fait ce genre d'objet qui va à l'encontre un petit peu de des plateformes et de ce qu'on veut faire.
Quand j'ai ouvert, il y avait beaucoup qui me disaient, mais t'es sûr que ça va marcher parce que les gens ils écoutent plus sur vinyle, ils écoutent sur plateforme. Et les études, elles montrent vraiment que les gens écoutent beaucoup sur plateforme, ça c'est indéniable, mais qu'il y a vraiment des écoutes multi-supports avec le vinyle qui revient, parce qu'on en parle un peu tout à l'heure, c'est un objet de collection. Quand on aime un artiste, qu'on a envie de le soutenir, au-delà de l'écouter sur la plateforme, on aime bien avoir un objet qui lui appartient, et ça peut être des fois en allant à ses concerts, en achetant du merch pendant les concerts, ou alors ça peut être le vinyle justement. Et tu le disais tout à l'heure aussi, j'ai oublié ton prénom,
Mathéo.
Écouter sur un vinyle, il y en a qui aiment ça aussi, parce qu'en effet c'est pas la même écoute. On va prendre le support, on va l'utiliser, on va le mettre. On va pas pouvoir passer les chansons, on va l'écouter en entier. Et il y a des gens vraiment qui ont envie de revenir à ça, pas sur tout. Parce que les gens qui achètent des vinyles, ils écoutent beaucoup, beaucoup de musique. Moi, je vois tous mes clients, ils sont quand même très au courant de l'actualité musicale. Mais ils vont acheter pour les artistes qu'ils préfèrent. Ceux vraiment, là, ils disent, j'ai adoré l'album, donc du coup, je veux l'avoir en vinyle parce que cet album-là, il est important pour moi. Et du coup, ils vont revenir sur le support physique. Donc, pour moi, c'est un peu des deux. Il y a vraiment des gens, ils continuent à écouter sur plateforme, mais le vinyle, ça reste un objet qu'on aime bien avoir pour soutenir l'artiste ou parce qu'on aime bien l'album.
Globalement, on dit que s'il y a une œuvre qu'on aime, qu'elle soit littéraire, musicale, cinématographique, faut la posséder. C'est comme ça, il y a aussi un attachement affectif, je pense, avoir un objet entre les mains qui
totalement, qui permet de s'identifier. Il y a de l'immatériel. On n'écoute plus un vinyle pour découvrir un album aujourd'hui. même si j'ai une cliente hier qui m'a dit j'ai pas écouté l'album de Ray, j'attends de l'acheter en vinyle parce que je sais qu'il va me plaire. Mais à part elle, la plupart des gens ils écoutent d'abord et si vraiment ça leur plaît, ils disent bah là j'ai envie d'avoir le support.
En tout cas, je vois Taylor Swift $1 milliard de recettes sur les vinyles seulement.
Hein, oui, bah, voilà, c'est aussi. À une époque, on disait que Taylor Swift c'était la reine des variants parce qu'elle va sortir un album, le même album avec plein de couleurs différentes et plein de d'images différentes, etc. Aujourd'hui, maintenant, ils font tout ça. Justement, c'est un peu l'objet de collection. On aime avoir le vinyle coloré de la sortie ou alors le vinyle exclusif des disques indépendants. Voilà, Fnac aussi a souvent des exclusivités. On aime bien justement que le vinyle. Moi, mes clients, ils aiment pas trop les vinyles noirs. Ils préfèrent les vinyles colorés. Ce qui est peut-être l'inverse de Homewax ou CDBD où là, les gens, ils préfèrent le vinyle noir un peu classique. Mais c'est vraiment des objets collection. Et sur Taylor Swift, il y a des gens qui achètent toutes les versions du même album. Après, Taylor Swift, les Swifties, il y en a qui font ça, mais dans la K-pop, c'est pas mieux. Hein. Il faut aussi plein de versions d'albums et les gens achètent aussi. Donc, c'est beaucoup d'argent, c'est sûr, mais c'est des objets de collection et c'est vraiment des objets qu'on aime avoir chez soi. Et moi, je trouve que justement, les gens qui sont vraiment fans, bah, ils sont au courant plus de tout, vraiment. Celui-là, il vient de tel magasin, celui-là, il vient de tel endroit, celui-là, c'est une exclusivité de tel endroit. Il y a vraiment une histoire derrière à raconter. Et moi, je trouve ça intéressant, même si en effet, il y a beaucoup de variants.
Impression US, impression Europe, impression, enfin, tout ça.
Vous exactement. Oui.
Si vous voulez faire la collection complète de votre artiste préféré, vous avez de quoi vous amuser. Et surtout, ne loupez pas, donc, on l'a bien compris, le 18 avril, le Disquaire Day avec des ventes exclusives à ce jour-là, notamment en ce qui concerne Pop It, sur tout ce qui concerne donc plutôt la pop actuelle.
Ouais, c'est ça. Alors, juste pour info, moi, j'ouvre à 10h ce jour-là, alors que d'habitude, j'ouvre à 11h. Mais vu que le Disquaire Day, c'est international et c'est tout le monde à 10h, heure locale. Mais du coup, je vais ouvrir aussi à 10h, sûrement avec des chouquettes pour les gens qui seront là dès le matin, tôt. Mais du coup, ce que je vais avoir, ouais, c'est ce que j'ai commandé en plus, surtout en grand nombre, c'est Taylor Swift, c'est Madonna, c'est Kat Size, c'est Olivia Dean. Donc un peu ouais, tous ces artistes plutôt pop, même si comme j'ai dit, j'ai élargi aussi un peu sur certains artistes.
Un peu de cinéma et puis on revient ensemble après pour redonner les infos pratiques concernant le Disquaire Day et aussi Pop It tout simplement. Je voulais rajouter store magasin dans Pop It tout simplement avec toi Antoine. Mais avant tout ça, donc du cinéma avec la chronique 1 et demi de Mathéo et Johan.
La transmission a toujours été au cœur de l'histoire humaine, celle avec un grand H évidemment, et quand certains regrettent encore avec amertume l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie en 642 qui renfermait les secrets du monde, nous préférons ici nous attarder à sa forme la plus pure. Tout ce qui est relatif à la vie humaine est rythmé par cet engrenage. On ne naît pas avec le savoir, on l'apprend. Si certaines actions nous paraissent naturelles, instinctives, elles résultent toujours d'un mimétisme. Si l'on prend celle-ci par le prisme de l'enfance, il est évident que si nous n'avions pas appris de par nos parents à l'utilité de la brosse à dents, nous aurions une odeur buccale bien différente. Le philosophe néerlandais Erasme écrivait en 1529 dans son traité de l'éducation des enfants qu'on ne naît pas homme, on le devient. Si les films n'étaient pas accompagnés par un récit historique lié à leur création ou aux propos qu'ils portent, aurions-nous toujours cet intérêt profond pour le 7e art ? Serais-je totalement conscient du mastodonte qu'est Fitzcarraldo sans son tournage chaotique, sans avoir pris connaissance que l'équipe de tournage a mis 2 semaines pour déplacer un bateau de 340 nonnes, sans savoir que cela se passait en pleine Amazonie, sans connaître le récit pitoyable des conquistadors ? De manière plus générale, si tous ces grands réalisateurs ne nous avaient pas transmis leur art, à quoi ressemblerait le cinéma aujourd'hui ? C'est inimaginable, impossible même d'essayer de se projeter dans ce monde tant il n'aurait pas de sens. Car la transmission, c'est ce qui fait l'humanité, c'est en réalité même ce qui fait la vie. Or, dans une société qui nous pousse les uns et les autres à ne s'intéresser qu'à notre nombril, qu'à consommer la transmission au travers d'un apprentissage obligatoire et consumériste, sur lequel on ne se questionne plus une fois celui-ci acquis, ne devrait-on pas accorder plus de temps à l'écoute et à la compréhension ? Le concept même de génération a été créé parce que les hommes n'ont, ou plutôt n'avaient d'autre choix que d'échanger, que de cohabiter pour que le nouveau et l'ancien créent un tout tourné vers l'avenir. Ne sommes-nous pas en train de marcher dessus ? Les enfants d'hier ne sont-ils pas les bourreaux de leurs propres aînés ? À une heure où le départ à la la retraite recule et où l'isolement des personnes âgées grimpe en flèche, où les métropoles aspirent sans jamais recracher. Un réalisateur italien a mis en image l'importance de la transmission dans un pays touché durement par l'exode rural, l'Italie. Il s'appelle Francesco Sosai. Il y a une semaine, son film Le Dernier pour la route sortait dans les salles françaises.
Avevamo scoperto una roba veramente incredibile sulla vita. Me la ricordi un attimo, mi sa che mi son perso.
Zio, caro, non me la ricordo più.
Facciamo che andiamo a berci l'ultima a Venezia.
Alors pour revenir un peu sur son parcours, Francesco Sosai, avant Un dernier pour la route, s'est construit un parcours assez singulier entre enracinement local et formation européenne. Né dans les Dolomites, au nord de l'Italie, il grandit dans un territoire rural, montagneux, assez éloigné des grands centres urbains. Et c'est peut-être déjà ici que naît son rapport au paysage et à l'architecture qu'on retrouvera plus tard dans ses films, mais nous y reviendrons. Sosai suit un parcours universitaire en littérature à Rome et commence à tourner quelques petits courts-métrages. Il s'essaye, il expérimente. Et un tournant important arrive lorsqu'il est admis à une université très renommée de cinéma à Berlin en Allemagne, dont je ne dirai pas le nom pour vous éviter mon fabuleux accent en allemand. Mais enfin voilà, c'est une école réputée pour son exigence artistique. Ce passage par Berlin marque son cinéma, lui permet d'acquérir toutes les bases théoriques et surtout d'étayer sa culture et sa curiosité. Et en 2021, il réalise alors son premier long métrage, Other Cannibals, qui est présenté au Tallinn Black Night Film Festival, où il va remporter même le prix du meilleur premier film. Ce succès installe Sosai comme une voix montante du cinéma italien indépendant. Et avec son dernier film, Un dernier pour la route, présenté dans la section Un certain regard du Festival de Cannes en 2025, il confirme son parcours et signe là surtout une première percée sur la scène internationale.
Et motore!
È partito
34 2 seconda e ciac buona vai crano
America America America.
Francesco Sosai s'est ouvertement inspiré du fanfaron de Dino Rizzi pour créer son propre road movie. Il nous a aussi avoué avoir pris quelques idées dans notre bon vieux cinéma français avec des films comme Trafic de Jacques Tati ou L'Argent de Robert Bresson. Le récit qui nous est vendu est celui de deux hommes voulant prendre un dernier verre et qui se retrouvent à parler avec un groupe du jeune, duquel va se séparer un étudiant en architecture. Lui peine à séduire celle qu'il aime, eux veulent lui transmettre leur joie de vivre et les restes de leur campagne qui se désagrègent petit à petit. Cela peut paraître simple, sans doute que ça l'est. Entre ces vers, ces moments de désaccord et de franche rigolade, des problématiques viennent se greffer au récit. Il y a cet ancien compagnon d'infortune qui refait surface, cette quantité de lieux essentiels qui ont fermé, le pouvoir d'attraction de Venise, les machines à sous, la retraite, le train, les virages, encore Venise, des banalités qui ont leur importance car elles font la vie de ceux qui la côtoient. C'est ce que le trio fraîchement formé essaie de dégager durant tout le film. Nous avons eu la chance d'interviewer Francesco Sosai lorsqu'il était venu présenter son film dans la catégorie long métrage à premier plan. Voici ce qu'il nous disait.
Alors le point de départ, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux générations, comme la génération des années 70 et la jeune génération du début des années 2000. Cette histoire est une histoire qui parle des changements majeurs dans la société italienne de ces 20 dernières années. J'ai fait ce film parce que je sentais qu'il manquait au cinéma italien ce regard sur le paysage, donc pour décrire les gens et le paysage d'une manière unificatrice.
Un film où on ne se prend pas la tête et on ne cherche pas à nous donner de leçons, que demander de plus ? C'est un métrage sur le croisement de deux générations qui avancent chacune à leur rythme dans un monde qui change bien trop vite et qui change tellement vite qu'entre deux verres, on a à peine le temps de regarder derrière nous qu'on ne reconnaît déjà plus le paysage, un peu comme l'architecture autour d'eux finalement. Pour lâcher la référence, on n'a pas pu s'empêcher de penser au parallèle avec Taipei Story d'Edward Yang, pour ceux qui ont la référence. Et ce qui fonctionne particulièrement bien dans le film, c'est la justesse des personnages. Il y a dans ces figures masculines fatiguées, un peu perdues, quelque chose de profondément humain. Le film capte avec finesse leurs failles, leurs tentatives maladroites de connexion. Et cette mélancolie diffuse qui traverse toute la nuit, on pense par moments à l'héritage de la comédie italienne, mais vidée de son exubérance. Ici, le rire est discret, presque retenu. La bande-son particulièrement est très bien retranscrite, aide aussi à un sentiment d'immersion. On vous a mis quelques extraits tout au long de cette chronique pour vous donner un avant-goût. Hein. Et de ses propres mots, le réalisateur nous a confié qu'il utilisait les sons rock authentiques des bars en Italie. C'est une idée simple mais efficace et qui marche très très bien. La mise en scène accompagne cette intention. Caméra assez souple, attention au visage, au silence, aux lumières nocturnes.
tout concourt à créer une sensation d'intimité. Le spectateur est moins invité à suivre une histoire qu'à partager un état, une humeur, ainsi qu'un moment de vie. Il n'est pas la question de morale. Il n'est pas question de morale à faire passer.
I don't like messages.
Je n'aime pas les messages dans les films. J'envoie plus des messages avec mon téléphone et c'est la seule façon dont j'envoie des messages.
Non,
je ne veux pas transmettre un message à travers le film, mais je veux créer une narration avec le plus de couches possible pour que tout le monde puisse voir quelque chose dans le film. Et j'aime quand les films ont beaucoup de niveaux pour qu'on puisse les regarder, les re-regarder et à chaque fois on comprend quelque chose de plus.
Francesco Sosai s'amuse, plans ludiques, notamment les trajets dans les bars et la plaine, raccords inventifs, petites idées visuelles qui font sourire et rendent le récit vivant. Les acteurs Filippo Scotti et Sergio Romano, et Pier Paolo Capovilla sont attachants, ils ont leur propre personnalité, leur interaction marche plutôt bien. Ça fait très authentique, comme je le disais. Je dirais quand même qu'il manque un petit je ne sais quoi pour vraiment nous marquer, on se laisse embarquer, on voyage. Mais à la fin de ce road trip, on retourne dans notre quotidien sans avoir vraiment un souvenir très marqué, très mémorable. La proposition reste très sincère et on ne peut que vous conseiller d'y jeter un œil pour ne serait-ce que délirer l'espace d'une heure et demie et partager un moment de vie avec ces personnages fêtards, oui, mais plein d'amour. D'ailleurs, on lui a demandé au réalisateur s'il était fêtard lui-même.
J'avais l'habitude, plus maintenant, mais j'aime les fêtes, c'est ce genre de rassemblement de gens, j'en ai fait beaucoup. Tout ce qui a trait à l'expérience commune avec d'autres personnes et se sentir libre et se libérer soi-même, je pense que c'est important. Je veux dire, mon court métrage parle aussi d'une fête d'anniversaire.
Merci beaucoup, 2 et 1 demi, Mathéo. Non, je sais plus à chaque fois. Mathéo.
2 et demi.
C'est 2 et demi, donc j'ai vraiment dit 1 et demi tout à l'heure.
Oui. Ah oui, vraiment, ouais. Moi, je pensais que c'était la vanne.
Moi, je pense que tu le fais exprès.
Oui. Non, c'est.
Ouais.
Bref, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. On vous retrouve aussi sur vos réseaux sociaux, sur le compte Instagram, pour découvrir en podcast et des extraits d'interviews aussi.
Exactement, dont l'interview du coup de Francesco Sosai, alors qui du coup n'est pas doublé par Johan sur Instagram. C'est dommage parce qu'il le fait très bien.
Oui, mais
mais voilà, en tout cas, oui. Voilà, l'interview de Sosai et puis de d'autres réalisateurs comme Frédéric Ambalek ou Marie Elsa Squaldo sont à découvrir sur notre compte Instagram, effectivement.
Vive le cinéma, merci beaucoup Johan, merci beaucoup Mathéo, merci aussi Antoine. Le cinéma, je sais pas si tu aimes, j'imagine qu'il doit y avoir des ponts quand même avec la pop culture, peut-être des films.
Si, totalement. Et
t'en vends des films d'ailleurs à Popit?
Alors je vends pas des films, je vends des musiques de films, en effet, des BO de manga, d'animé, etc. Et pour le Discardé, pour faire le lien avec le 18 avril.
Oui Antoine, parce que j'ai fait la transition. Antoine de Popit, du coup, qui est un disquaire concept store où il y a aussi des produits dérivés de musique actuelle, bien pop, du coup.
Exactement.
Qui participe au Disquaire Day du 18 avril.
C'est ça. Et du coup, pour faire le lien avec les films, c'est qu'il y a la sortie de K-pop Demon Hunters, la BO du film, mais avec un artwork retravaillé. La pochette est magnifique. Il y a 2 pochettes, une sur les Huntrix, le groupe de filles, et une sur Saja Boys, le groupe de garçons, donc pour ceux qui connaissent le film. Il n'y a pas trop d'autres sorties vinyle pour le Disquaire Day de musique de film, ou du moins je les ai peut-être loupées, mais toutes les musiques de films maintenant ressortent aussi en vinyle et il y en a en partie en magasin et chez Omoax il en a pas mal aussi.
Des affiches aussi de non.
Alors pas de films toujours, mais d'artistes, oui. Et puis
et pas de musique de film. Non, mais une affiche de musique de film, ça n'existe pas.
Non, pas vraiment. Non. Alors, j'ai des affiches de K-pop Demon Hunters, qui est du coup un film sur la K-pop, mais c'est tout.
Et avant de se quitter, quand même la pépite que tu aurais à Pop It, pour toi le produit dérivé ou l'objet phare ou le truc ou toi dans ta propre collection que tu n'as pas ou alors que dont tu es très fier.
C'est une question difficile parce que j'ai plein de trucs. J'avais un portefeuille Britney Spears qui vient de partir que je trouvais assez fun avec qui reprenait des designs de ses clips, notamment où elle est tout en rouge avec une combi d'un premier ou deuxième clip, je sais plus, que je trouvais assez marrant, assez original. Mais finalement, c'est parti cette semaine alors que ça faisait un moment que je l'avais. Après, j'ai plein de petits trucs intéressants, des médiators. C'est aussi cool quand on a envie de jouer de la guitare avec vraiment son artiste dessus.
Britney Spears, Marie, non, c'est pas forcément un univers non plus musical qui te branche.
C'est ma génération, mais après, j'écoutais pas que ça. Par contre, j'ai une anecdote sur un disquaire indépendant qui est intéressante.
Oui.
J'ai pu rencontrer lors d'un voyage en Afrique du Sud. Donc, c'est pour donner l'importance des disquaires indépendants. Le disquaire qui avait permis de retrouver le chanteur Sugarman, qui était très connu aux États-Unis et qui était originaire d'Afrique du Sud et qui vivait dans des conditions assez misérables en Afrique du Sud. Et c'est grâce à un disquaire que, en fait, cet artiste a pu aller faire des concerts aux États-Unis et avoir connaissance de sa renommée sur un autre continent. Et du coup, j'ai trouvé ça passionnant et très intéressant de pouvoir discuter avec ce disquaire-là qui avait œuvré dans ce sens-là. Donc, c'est important que les disquaires indépendants soient présents et permettent un accès autre que les plateformes à la musique. Voilà.
Alors, vive le cinéma et vive les disquaires, du coup. On peut dire ça comme ça, d'une certaine façon. Et justement, pour te découvrir, toi, Antoine, Pop It, précisément, ça se passe comment? C'est où?
Alors, du coup, c'est 6 rue des Lys, à côté de la préfecture, Benoît Chocolat, la rue Saint-Aubin. Vraiment, je suis tout près du centre-ville, de 11h à 19h, du mardi au samedi, et exceptionnellement le jour du Disquaire Day, à 10h, le 18 avril.
Bah parfait, bah toutes les infos pratiques sont données. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous dans un an et demi du coup, voilà, vu que t'es venu il y a un an et demi.
Pourquoi pas, après on m'a invité sur une autre émission de Radio G.
Oui, j'ai cru que t'allais parler d'une autre radio encore.
Pour parler de l'Eurovision, donc on reverra peut-être.
Eh ben on entendra ta voix du coup sur le 100.5 FM. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir Antoine. Nous on se retrouve demain, prenez soin de vous, à demain. Et Topette. Vas-y Mathéo. Hein.
Topette.
Nu bijna allemaal. Flesje wijn per dag soldaat. We hebben reden genoeg er eentje over te slaan. Ach, ik zit op een wolk alleen met haar. En het is weer september. Eind van de zomer en er was weer van ons, van jou en mij. En ik weet niet van jou, maar als het aan mij ligt, dan komen daar nog 10 zomers bij. En bij ieder blad dat ik zie vallen, hoop ik dat je nog een wind blijft. En het liefst nog iets langer, tot die weer begint. In het een datum. Het is allemaal een kwestie van tijd. Dus bij ieder blad dat ik zie vallen, hoop ik dat je bij me blijft. Oh, ik hoop zo dat je bij me blijft. Want
alles gaat een keer voorbij. Hoop zo dat je bij me blijft. Want bij ieder blad dat ik zie vallen, hoop ik dat je nog een wind blijft. En het liefst nog iets lang, tot je weer begint te blijven. Alles om ons heen heeft een datum. Het is allemaal een kwestie van tijd. Dus bij ieder blad dat ik zie vallen, hoop ik dat je bij me blijft.
Une méchante larme fait dans mon âme une plaie ouverte. Je me sens sec et vide comme une terre aride, j'ai pas la main verte. Je trouve que tout est con, rien ne tourne rond à part les vautours. Mais je tiendrai bon si je touche le fond, je ferai demi-tour.
J'entends plus le chant des piafs. Tu m'aimes, je fais même plus gaffe. Si je suis dingue quand le monde se déglingue, vais-je mal ou bien suis-je normal? Je suis triste et furieux, mais je vais pas chialer. Je vais pas foutre le feu, j'ai peur de me brûler. Je crois plus à demain, et c'est réciproque. Je sais pas d'où ça vient, c'est moi ou c'est l'époque.
Une méchante larme fait dans mon âme une plaie ouverte. Je me sens sec et vide comme une terre aride, j'ai pas la main verte. Je trouve que tout est con, rien ne tourne rond à part les vautours. Mais je tiendrai bon si je touche le fond, je ferai demi-tour. Ouais, je sais ça craint, j'ai le cœur chagrin et la tête sous l'eau. Je cherche le ciel bleu, mais j'en bave un peu quand j'ouvre les journaux. Laissez-moi vivre dans mon bateau ivre qui t'a déprimé. Je veux des foules en liesse et de la tristesse dans la même journée. Une méchante larme fait dans mon âme une plaie ouverte. Je me sens sec et vide comme une terre aride, j'ai pas la main verte. Je trouve que tout est con, rien ne tourne rond à part les vautours. Mais je tiendrai bon si je touche le fond, je ferai demi-tour. Une méchante larme a fait dans mon âme une plaie ouverte. Je me sens sec et vide comme une terre aride, j'ai pas la main verte. Je suis pas binaire, je suis pas bipolaire, y'a pas d'adjectif. Je suis qu'un mammifère de sang et de fer, d'amour et de griffes.
Given the throne, I didn't know how to believe.